RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Dans cette édition, Gaëtan, un reportage rare dans une ville dévastée par la guerre.
À Khartoum, la capitale du Soudan, notre envoyé spécial Elliot Brachet a pu y retourner pour se rendre compte des dégâts immenses, de la détresse aussi de la population malgré une attention internationale qui s'est étiolée. On sera ensuite à Bucarest et surprise dans les urnes en Roumanie. Un candidat pro-russe, plutôt inconnu du grand public, en tête du premier tour de la présidentielle. Reportage ensuite au Mexique à l'occasion de la journée mondiale de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Elles sont très courantes dans le pays. On va parler également de l'omniprésence du plastique en Corée du Sud qui accueille en ce moment des négociations censées justement parvenir à un traité mondial contre cette pollution plastique. Et puis en France, le Premier ministre entame des consultations avec les chefs des groupes parlementaires dans l'espoir d'éviter la censure de son gouvernement. Et ça s'annonce délicat.
Déjà plus d'un an et demi de guerre au Soudan, une guerre à huis clos.
Et RFI consacre une journée spéciale alors que notre correspondant, qu'il est également pour le journal Le Monde, a pu retourner récemment à Khartoum, d'où il avait été évacué au début de la guerre entre les généraux Al-Bourhan et Emeti. Ce correspondant, c'est vous, Elliot Brachet, bonjour.
Bonjour.
Alors on dit que c'est une guerre à huis clos car les témoignages sont rares, hein, comme les images d'ailleurs. Pourtant, le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Vous avez donc pu retourner dans la capitale soudanaise. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Elliot ?
Ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'ampleur des destructions dans ce qui était le cœur battant de Khartoum. Les quartiers historiques sont dévastés. Le grand marché d'Oum Dourman, par exemple, qui était une fourmilière, est aujourd'hui un désert de tôles calcinées. On a le sentiment d'être dans une ville fantôme. La moitié des 8 millions d'habitants de Khartoum sont partis. Il faut imaginer que c'est la seule capitale au monde actuellement qui connaît une guerre urbaine d'une telle intensité. Les tirs d'artillerie sont quotidiens. Ils tombent sur des maisons, des terrains de foot, des hôpitaux. Il y a des dizaines de morts civiles chaque jour, les cimetières sont pleins et aujourd'hui, presque plus que la guerre, les gens meurent de faim et de maladie.
Et c'est donc une ville en ruine dans laquelle vous êtes retourné. On écoute votre reportage et on se retrouve juste après.
Partout, le sol est jonché de verres brisés, de douilles de mitrailleuses, de brosses à dents, de photos de famille calcinées. Les services de déminage et une poignée d'habitants, comme Mohamed Omar, ont débarrassé les maisons des cadavres et des obus non explosés.
Les forces de soutien rapide étaient disséminées dans le quartier, en position défensive. L'armée avançait rue par rue, ralentie par les snipers, mais aussi car il y avait de nombreux civils dans les maisons, les paramilitaires les utilisaient comme des boucliers humains.
Si l'armée régulière a repris le quartier, c'est au prix d'immenses destructions.
Il n'y a plus rien à voir, ma maison est en ruine. À l'intérieur, tout est détruit. Ici, le mur s'est effondré, là, il n'y a plus de toit. L'armée était postée dans la rue là-bas. Les paramilitaires de l'autre côté, ils sont tous irresponsables. Les deux camps, irresponsables. Et qui est-ce qui meurt au final ? Ce sont les pauvres gens.
Tariq Abdallah se tient au milieu d'une cour lacérée par les obus. Cet ancien commerçant n'a plus d'argent pour vivre ailleurs.
Tous les deux, trois jours ici, il y a un habitant qui meurt. Et qu'est-ce qui les tue ? Maintenant, c'est la famine. Les gens sont faibles, ils mangent à peine quelques lentilles. Il suffit d'un moustique qui te pique pour que tu meures. Ils auraient pu mettre un terme à cette guerre il y a longtemps. Aujourd'hui, elle mène à notre perdition. Ils ont perdu la raison, ils sont guidés par la haine. Notre pays est perdu.
Quelques habitants déblayent les gravats, mais ici, personne ne reconstruit. La guerre n'est pas finie.
Ah oui, la guerre se poursuit, Elliot. Hein, vous le dites dans ce reportage que vous avez tourné à Khartoum. Et depuis le 26 septembre, l'armée régulière a lancé une contre-offensive importante dans la capitale.
Oui, les troupes du général Burhan avancent sur plusieurs fronts. Pour la première fois, elles ont remis un pied dans le centre-ville, mais elles progressent lentement, rue après rue. Ce qui est frappant, c'est que les mouvements de civils qui fuient les combats ne vont que dans un sens. Ils quittent massivement les zones contrôlées par les paramilitaires pour deux raisons. D'abord parce que la milice du général Hemeti s'adonne à des exactions énormes contre la population, des pillages, des viols de masse, mais aussi parce que l'armée régulière en face, pour gagner du terrain, multiplie les frappes aériennes, faisant des dégâts considérables.
Et pour ce qui est du rapport de force dans le reste du pays, Elliot, on sait que l'armée régulière a annoncé ce week-end avoir repris la ville de Sinjar dans la province de Sennar.
Oui, l'armée, elle avance dans l'est du pays, mais globalement, le rapport de force reste incertain. Le Soudan reste presque coupé en deux. Les hommes de Hemeti tiennent toujours le Darfour à l'ouest. Et c'est là-bas que se joue la bataille la plus importante du moment, la plus stratégique. Les forces de soutien rapide encerclent depuis des mois la ville d'El Fasher. Si elles tombent, elles auront un contrôle quasi incontesté sur un territoire aussi étendu que la France.
Merci Elliot Brachet, envoyé spécial de RFI et du journal Le Monde à Khartoum. On aura l'occasion d'entendre vos autres reportages. reportages tout au long de la journée sur Radio France Internationale. La guerre, c'est aussi au Moyen-Orient, mais on apprend que le gouvernement israélien accepte la poursuite de la médiation américaine pour les négociations avec le Liban en vue d'un cessez-le-feu. En tout cas, les frappes israéliennes se sont poursuivies hier au Liban, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Les écoles et les universités de la capitale et de ses environs sont fermées aujourd'hui. Israël, de son côté, dit avoir été visé par environ 250 projectiles tirés depuis le Liban par le Hezbollah. Les détails avec notre correspondant à Jérusalem dans le journal de 8h en temps universel.
En Roumanie, les sondages le créditaient d'un score presque anecdotique.
Calin Georgescu les a fait mentir, ces sondages. Ce pro-russe est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 22% des suffrages selon les résultats quasi définitifs, contre un petit peu moins de 20% pour l'actuel Premier ministre Marcel Ciolacu, pro-européen lui. Les deux hommes s'affronteront dans les urnes le 8 décembre. Ce n'est pas du tout l'affiche qui était attendue, surtout que Georgescu était quasiment inconnu du grand public avant la campagne qu'il a menée avec ses idées anti-système, anti-Union européenne, anti-OTAN aussi. Alors qui est-il ? Correspondance à Bucarest d'Anna Harrison.
Qui est Călin Georgescu ? Voilà la question que toute la Roumanie s'est posée hier soir. Le nom de Călin Georgescu est pourtant déjà apparu dans la politique roumaine. Il a travaillé dans des différents ministères et a été proposé à plusieurs reprises pour le poste de Premier ministre. Il n'a encore jamais réussi à s'imposer et presque personne ne se souvient de lui. Ses messages ont un caractère messianique et proposent de sauver la nation roumaine qui aurait, selon lui, besoin de retrouver son prestige et sa souveraineté, comme il l'a encore dit hier soir.
Nous n'avons jamais été et nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous sommes dans une mission les uns avec les autres et tous avec Dieu. Ce soir, le peuple roumain a crié « Nous voulons la paix ». Il a crié très fort, extrêmement fort. C'est l'éveil de la conscience du peuple roumain. J'ai toujours dit que l'insécurité économique et sociale qui s'est aggravée depuis 35 ans et nous a humiliés en permanence a pris sa revanche sur la classe politique.
Le vainqueur du premier tour des élections présidentielles en Roumanie a fait l'objet dans le passé d'une enquête pénale à cause de ses déclarations antisémites. Anna Harrison, Bucarest, RFI.
En Uruguay, le deuxième tour de la présidentielle, c'était hier, et victoire de Yamandou Orsi, un ex-professeur d'histoire, candidat de l'opposition de gauche, la gauche qui marque donc son grand retour au pouvoir dans le pays. Son adversaire de centre-droit, Alvaro Delgado, a reconnu sa défaite.
La maison reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes, selon un rapport de l'ONU.
Un rapport publié en ce 25 novembre, journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes, un phénomène qui dépasse les frontières, qui touche toutes les catégories sociales et groupes d'âge aussi, nous disent les Nations Unies, qui parlent d'une femme tuée toutes les 10 minutes dans le monde par son conjoint ou un membre de sa famille. Et cette terrible moyenne, le Mexique y contribue fortement. Là-bas, ce sont environ 10 femmes qui meurent chaque jour sous les coups d'un homme. Et pour celles qui survivent, c'est le début d'une longue bataille juridique pour obtenir justice. Reportage de notre correspondante à Mexico, Marine Lebeg.
Quand elle commence à parler, Arélie Escobar, 27 ans, laisse glisser le foulard bleu qui lui recouvre la tête. Sur son cou et sa poitrine, des boursouflures, cicatrices d'une nuit qu'elle n'oubliera jamais.
Tu veux souffrir ? Quand il m'a dit ces mots, je suis restée paralysée. Il m'a renversé une bouteille d'alcool à brûler dessus, de la tête aux pieds. Quand je me suis allongée sur le lit pour m'essuyer le visage avec la couverture, il s'est jeté sur moi avec un briquet. Mes cheveux ont d'abord pris feu, puis c'est tout mon corps qui s'est enflammé.
Deux infarctus dans l'ambulance, un mois passé à l'hôpital. 70% du corps d'Arélie Escobar est brûlé au deuxième et troisième degré. L'enquête ouverte par le parquet n'évoque pourtant que des lésions. Maximiliano Carranza, avocat d'Arélie Escobar.
J'ai contacté les hauts fonctionnaires du parquet de l'État de Mexico, expliquant que l'enquête était menée pour lésions, alors que les faits correspondaient complètement à un cas de féminicide.
Coupable de lésions, il encourait 6 ans de prison. L'ex-compagnon d'Arélie Escobar en risque désormais 60 pour tentative de féminicide. Mais si ce délit est inscrit dans le code pénal du Mexique depuis plus de 10 ans, dans 87% des cas, la justice n'est toujours pas rendue aux victimes de féminicide. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
Nous devons mettre un terme à la pollution plastique avant que la pollution plastique ne mette un terme à l'humanité. C'est ainsi que la Corée du Sud résume l'enjeu de la conférence des Nations Unies qu'elle accueille à partir d'aujourd'hui.
À Busan, dans le sud-est du pays, c'est en fait le dernier cycle de négociations pour tenter de parvenir à un traité mondial contre la pollution plastique. On en trouve désormais des traces dans les nuages, dans les fosses océaniques, même les plus profondes, ou encore dans le cerveau des êtres humains. Alors tous les négociateurs s'accordent à dire qu'il y a urgence à agir. c'est la méthode qui divise et il ne reste que 63 heures très exactement aux 178 participants, pays participants pour se mettre d'accord.
Et parmi eux donc l'hôte sud-coréen.
Un pays qui contribue grandement à cette pollution plastique puisqu'il en génère près de 12 millions de tonnes par an. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Du plastique partout. En Corée du Sud, le moindre produit à l'achat est emballé par une voire deux couches de plastique. Même les bananes vendues à l'unité en supérette ont droit à leur emballage de polyéthylène. Dans cette société du plastique, les habitudes sont difficiles à changer, comme l'explique cette jeune femme qui vient de recevoir un colis.
J'utilise beaucoup les livraisons à domicile et c'est vrai que cela fait beaucoup d'emballages jetés. Alors je m'étais dit que dorénavant, j'irais acheter moi-même en grande surface pour faire moins de déchets. Mais en fait, même en magasin, tout est suremballé. Donc j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment lutter contre le plastique. Il est partout.
En plus des livraisons et des grandes surfaces, la Corée du Sud est une grande consommatrice de café à emporter dans des gobelets en plastique. Cette gérante de café essaie tant bien que mal de limiter l'usage du plastique.
J'essaye de réduire les déchets plastiques. Je fais payer un supplément pour prendre à emporter dans un gobelet et j'incite les clients à venir avec leur thermos à café. Mais les gens n'y pensent pas souvent. Le gouvernement non plus n'incite pas vraiment les gens à arrêter le plastique. Il n'y a pas de loi là-dessus.
En effet, si la Corée du Sud avait bien une loi visant à réduire l'usage des emballages plastiques, le gouvernement actuel a abrogé ce texte en 2023. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
RFI 8h12 à Paris, face à la menace d'une censure, le Premier ministre français opte pour des consultations.
Michel Barnier va recevoir cette semaine les chefs de groupes parlementaires et c'est Marine Le Pen qui ouvrira le bal tout à l'heure, elle dont le parti, le Rassemblement National, semble désormais de plus en plus ouvert à l'idée de faire tomber le gouvernement. Michel Barnier veut éviter ça, mais c'est pas gagné, Aurélien Devernois.
C'est par deux cols hors catégorie, Marine Le Pen et Mathilde Panot, que Michel Barnier entame son ascension du mont censure. Ambiance glaciale garantie, les présidents des groupes RN et LFI à l'Assemblée ne prévoyant pas d'arriver avec les meilleures dispositions à l'égard du Premier ministre. Mais si Michel Barnier ne fera sans doute aucun effort en direction des Insoumis, il espère encore raisonner le Rassemblement National. Dans Le Parisien ce dimanche, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a ainsi appelé au dialogue et jugé les demandes du RN ni illégitimes ni infondées. Pour autant, Matignon espère surtout diviser le nouveau Front Populaire en mettant la pression sur le Parti socialiste sans qui la censure ne pourrait pas être votée. Sa responsabilité est immense, martèle Maud Bréjon, qui le supplie de ne pas sceller l'alliance de la honte. Réponse très froide côté PS, nous ne sommes pas là pour sauver le poste de Maud Bréjon. Les socialistes sont toujours furieux d'avoir vu leurs propositions budgétaires balayées à l'Assemblée. On n'est pas des paillassons, fulmine-t-on au PS. Or, un scénario identique se dessine déjà au Sénat, où le projet de loi de finances commence à être étudié en séance plénière ce lundi.
Les précisions d'Aurélien Devernois.
1h30 de temps de parole pour le gouvernement, 1h30 aussi pour Google, dont le procès se poursuit aujourd'hui aux États-Unis.
Et place aux plaidoiries, alors que l'entreprise est accusée par le ministère de la Justice de pratiques anticoncurrentielles dans sa gestion de la publicité en ligne. En septembre dernier, on s'en souvient, Google avait déjà été reconnu coupable dans un autre dossier concernant cette fois son moteur de recherche. Et Nathanaël Vitran, il est là encore dans le viseur du gouvernement américain qui veut imposer à l'entreprise de vendre Chrome, son navigateur Internet.
Oui, après une longue période de laisser-faire, le gouvernement et la justice aux États-Unis s'inquiètent de la domination des mastodontes du secteur. Microsoft, Amazon, Apple, Facebook et donc Google. Des entreprises devenues tellement puissantes qu'elles s'apparentent à des monopoles. C'est le cas de Chrome qui s'accapare près de 70% du marché à lui tout seul. Derrière, on trouve Safari, le navigateur d'Apple, présent sur tous les produits de la marque à la pomme. Et puis, un grand vide, tous les autres se partagent les 10% du marché restant des miettes. Google a donc un accès privilégié aux données et aux habitudes de navigation de l'immense majorité des internautes. Un avantage concurrentiel considérable pour entraîner ses algorithmes et vendre ses produits. Google a le temps de voir venir. L'entreprise a été reconnue coupable en septembre, mais le juge fédéral chargé du dossier ne statuera pas sur la peine avant l'an prochain. Pour le ministère américain de la Justice, séparer Chrome de Google aurait le double avantage de forcer l'entreprise à se réinventer et de faire entrer sur le marché un nouvel acteur.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Il est 8h15 à Paris.
Et merci Gaëtan Plenet. RFI Matin continue tout de suite avec la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Frédéric Couteau, et à la une, les COP, pourquoi faire?
Alors que la COP 29 de Bakou s'est achevée dans la douleur hier, le Süddeutsche Zeitung nous emmène à Tuvalu, ce micro-État du Pacifique d'ores et déjà condamné à disparaître. Et en effet, pointe le quotidien allemand, dans cet archipel paradisiaque, le niveau de la mer a augmenté de près de 15 cm au cours des 30 dernières années. Il devrait encore augmenter de 20 cm d'ici à 2050 et de 50 cm à 1 mètre supplémentaire d'ici la fin du siècle. C'est trop pour Tuvalu. Le pays se compose de 6 atolls et de 3 îles très dispersées dans l'océan. Ensemble, elles ont une superficie de seulement 26 km carrés. Il n'y a pas de montagne. Si le niveau de la mer continue à monter, une grande partie du pays sera submergée. Alors, que faire face à l'inéluctable? Un accord a d'ores et déjà été passé avec l'Australie, relève le Süddeutsche Zeitung. Un accord pour l'immigration tous les ans de 280 citoyens de Tuvalu sur une population totale d'un peu plus de 11 000 habitants. Et puis il y a ce projet de nation numérique, d'état virtuel pour protéger les droits internationaux du pays, notamment en matière de pêche sur les quelques 200 000 marins situés autour des côtes de l'archipel.
Alors le cas de Tuvalu est extrême bien sûr, mais le changement climatique affecte désormais le monde entier. Les COP, elles, se suivent et se ressemblent.
Oui, les sommets sur le climat mettent au jour les plaies du monde et peinent à les guérir, synthétise le quotidien Le Soir à Bruxelles. Le sommet climatique à Bakou s'est conclu dans la tension. De plus en plus, les COP reflètent les fractures mondiales sur les énergies fossiles, la justice climatique et la coopération nord-sud. Bref, la marche brinque-ballante du monde. Reste, constate le quotidien belge, reste qu'on n'a pas encore présenté d'alternative à ces discussions techniques entremêlées d'enjeux politiques et sociaux majeurs. La route se poursuivra. Après la finance, l'autre face de la médaille, la réduction des émissions d'ici 2035, sera au centre du sommet de Belém au Brésil l'an prochain. Mais au-delà du caractère pénible des négociations, les chausse-trappes, les égoïsmes qui s'expriment sans vergogne, tout ne sortira pas des COP, estime encore Le Soir. Elle parle du monde et au monde, mais ce sont les États qui répondent, ceux qui produisent, ceux qui utilisent, sans virage politique, économique et sociétal visant à réduire la consommation, à améliorer l'efficacité et à décarboner le reste, sans réinvention de la solidarité, les principes resteront lettre morte.
Tout de même, haut les cœurs, s'exclame Libération à Paris.
Oui, Libération qui pointe trois bonnes nouvelles pour se consoler d'un accord au goût amer. Trois bonnes nouvelles qui proviennent justement des États. Tout d'abord, se félicite Libération, le Mexique a acté l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050. Une première étape capitale pour cette nation, jusqu'ici à la traîne dans ses politiques climatiques. Ensuite, l'Indonésie met à la retraite ses centrales au charbon. Enfin, le Royaume-Uni et le Brésil montrent la marche à suivre avec l'annonce d'une réduction drastique de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, le Guardian à Londres veut également voir le verre à moitié plein.
Oui, les résolutions adoptées à la COP29 pour faire face à la crise climatique hier sont certes très décevantes, relève le quotidien britannique, mais elles valent mieux que rien. Issues de négociations qui ont souvent frôlé l'échec, ce résultat maintient en vie les négociations sur le climat malgré le nouveau mandat de Donald Trump et pose les premières fondations internationales, bien que fragiles, sur lesquelles le monde pourrait enfin construire un système de financement de la transition des pays pauvres vers l'abandon des énergies fossiles. Maintenant, pointe le Guardian, tout va dépendre de la manière dont le reste du monde réagira à la fois lors de la COP30 qui se tiendra au Brésil l'année prochaine et dans la recherche d'autres moyens de lutter contre la crise climatique, dont le plus efficace serait de convenir d'un traité obligatoire visant à réduire les émissions de méthane, considéré aujourd'hui comme le moyen le plus rapide de réduire le réchauffement climatique. Si la volonté politique continue de faiblir, conclut le Guardian, nous le regretterons amèrement, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes.
La revue de presse, Frédéric Couteau, merci beaucoup. Et en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on part en Irak. Dans notre reportage international, l'Irak où depuis cet été, l'amendement d'une loi divise le pays, une réforme qui vise à modifier la loi des statuts personnels, celle qui définit depuis 1959 les règles du mariage, du divorce ou encore la garde des enfants. Ceux qui soutiennent l'amendement affirment qu'il rendra la loi plus conforme à la Constitution en donnant le choix de passer par des tribunaux religieux. Mais pour les opposants, cette réforme menace d'entamer les droits des femmes et des enfants du pays. Reportage à Bagdad, Marie-Charlotte Roupy.
Les manifestants, majoritairement des femmes, sont quelques dizaines rassemblées dans une rue passante de Bagdad. Elle rejette la réforme de la loi qui régit les affaires familiales en Irak.
En amendant cette loi, ils ont l'intention de remplacer les tribunaux civils irakiens par des tribunaux chiites et sunnites.
Sohaila El Hassem, activiste et membre de l'Alliance 188, du nom de la loi dite des statuts personnels. Avec son collectif, elle dénonce un retour en arrière, une influence religieuse sur les affaires civiles qui rendrait plus facile le mariage des mineurs et accorderait la garde des enfants au père à partir de 7 ans. Derrière une banderole, une femme s'inquiète des conséquences que cela aura sur sa fille dont elle a la garde depuis son divorce.
J'ai été forcée de me marier quand j'avais 13 ans. Ma fille a maintenant 10 ans. Pourquoi devrait-elle être à la garde de la femme de son père? Ça fait 10 ans que je prends soin d'elle et ils veulent me prendre ma fille sans lui demander son avis. Nous rejetons cet amendement parce qu'il ôte leurs droits aux femmes et aux enfants.
Elle est interrompue par un homme divorcé qui soutient la réforme.
Je gagne 10 000 dinars par jour. J'ai 4 enfants et je dois verser 450 000 dinars par mois. La mère de mes enfants ne me laisse ni les voir, ni leur rendre visite. Jamais.
Les juges sont justes. Vous pouvez aller au tribunal et demander à les voir.
Lui oppose une manifestante. Le ton monte jusqu'à ce que l'homme reçoive une gifle et soit escorté hors de la foule. Cette scène surprenante à Bagdad illustre les tensions engendrées par cette réforme. Pourtant, les règles qui régiront la vie des Irakiens ne sont pas claires. Les autorités religieuses auront 6 mois pour écrire leur code juridique une fois la réforme votée. Pour Salem El-Moussaoui, ancien juge, spécialiste du droit constitutionnel, difficile de savoir à quoi s'attendre.
Le problème du mariage des mineurs, c'est qu'il est source de désaccords entre les courants religieux. Le groupe sunnite malikite dit 12 ans minimum, l'école hanafite sunnite dit 9 ans et les chiites jafari 17. La crainte, c'est que les citoyens perdent confiance en notre système judiciaire irakien. Le résultat, c'est que nous serons soumis aux opinions et aux jugements personnels de religieux.
Quel contrôle conserverait l'État sur ces lois ? En cas de changement de responsable religieux dans le pays, les codes pourraient-ils être changés? De nombreuses questions restent en suspens, y compris de savoir si la réforme sera cette fois adoptée au Parlement. Marie-Charlotte Roupie, Bagdad RFI.
Reportage en Irak à retrouver sur RFI.fr. 10h22 à Moscou, c'était il y a une semaine, les États-Unis autorisaient l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe. Autorisation délivrée avec cette précision, la région de Koursk, où l'armée ukrainienne a commencé une incursion en août, sera visée en priorité. Après quasiment 4 mois d'offensive, l'Ukraine contrôle toujours une partie de ce territoire. Bonjour Anissa El-Jabri.
Bonjour.
Correspondante permanente d'RFI en Russie, vous êtes rentrée de cette région hier. Sa capitale abrite encore des évacués, mais la lassitude et l'amertume commencent à se faire sentir.
Oui, voilà, entre fin août où je me suis rendue sur place, c'était quelques semaines après le début de l'incursion, entre fin août et aujourd'hui, eh bien l'atmosphère a bien changé. Prenez le cercle de la ville, par exemple, c'était le point névralgique de l'aide humanitaire, un lieu où on accueillait fièrement la presse pour montrer l'organisation des volontaires H24, la nourriture, les vêtements, les dons qui arrivaient de toute la Russie. Eh bien aujourd'hui, on a visiblement plus très envie de voir des journalistes. Des évacués ont été relogés plus loin dans la région, voire carrément jusque dans la banlieue de Moscou, mais il y a eu récemment, localement, des contestations des modalités d'aide. C'est rare en Russie, vous le savez. Des manifestations ont aussi été organisées pour exiger davantage des autorités. Enfin, la population au sens large semble avoir bien du mal à comprendre pourquoi l'armée ukrainienne n'a pas encore pu être repoussée du territoire russe.
Anissa, est-ce que cette incursion a des conséquences sur la perception de la guerre ?
Eh bien, c'est en tout cas ce que disent certains observateurs locaux, comme Alexandre Novikov. Il est étudiant et aussi depuis août très impliqué dans l'aide aux évacués. Il tient le bureau de distribution d'aide ouvert à Koursk par 15 mouvements d'opposition anti-Kremlin. Voici ce qu'il m'a dit lors d'un rendez-vous dans un café de la ville sur ce qu'il perçoit de l'évolution de l'opinion.
Au début de l'opération militaire spéciale, ceux qui la soutenaient pensaient qu'elle serait rapide et se déroulerait selon le plan. Puis, un an plus tard, lorsque des groupes de sabotage ont commencé à entrer dans la région de Belgorod. Beaucoup d'habitants de la région de Koursk, en tant que voisins, n'étaient pas contents. Beaucoup voulaient une réponse ferme, que les choses cessent de traîner, qu'il y ait une frappe forte et décisive quelque part et qu'on en finisse. La troisième étape du changement d'état d'esprit s'est produite lorsque la région de Koursk a été touchée directement, d'abord par des bombardements, puis par une invasion, puis par l'occupation du territoire. Cette partie de la population, ces partisans actifs de la décision du pouvoir, je pense qu'ils sont moins nombreux maintenant. Quant aux personnes qui ont toujours été en faveur de la paix, elles ont continué à l'être, mais surtout, beaucoup parmi les indécis les ont rejoints. Et cette tendance, c'est évident, elle s'accentue avec le temps. De plus en plus de gens disent, d'une manière ou d'une autre, il faut mettre fin à tout ça.
On sait bien que dans la Russie en guerre, les sondages sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Mais ce que dit Alexandre Novikov sur le climat à Koursk semble aussi avoir un impact plus large dans le pays. Le dernier sondage de l'Institut Russian Fields réalisé début novembre montre que le soutien à des négociations de paix jamais n'a été aussi haut en Russie. 54% y sont aujourd'hui favorables, quand 36% veulent toujours la poursuite des hostilités.
Anissa El-Jamri de retour de Koursk pour RFI. Merci beaucoup. Bientôt 7h30 en temps universel et dans notre question d'environnement aujourd'hui de Bakou à Busan. La COP29 s'est achevée ce week-end en Azerbaïdjan sur un accord à minima de financement de la lutte contre le réchauffement climatique pour les pays en développement. Les pays riches n'ont pas autant mis la main au portefeuille qu'espéré. Pour financer cette lutte, il y a bien aussi l'idée de taxes qui ne progressent. Ceci dit que très lentement, taxer le plastique, par exemple, pourrait rapporter jusqu'à 35 milliards de dollars. Et c'est justement sur le plastique que débute aujourd'hui un sommet en Corée du Sud. Bonjour Jérôme Bosman.
Bonjour Julien.
460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. 178 États négocient depuis 2 ans pour parvenir à un traité juridiquement contraignant. Jérôme, l'enjeu, c'est de pouvoir contrôler le cycle de vie du plastique, l'une des pires pollutions qui soit et l'un des facteurs du réchauffement du climat.
Oui, exactement. Les liens entre production de plastique et changement climatique ne sont plus à prouver. Le plastique est un dérivé du pétrole et compte pour environ 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 2 fois les émissions du trafic aérien.
Et cette production augmente.
Oui, elle a doublé entre 2000 et 2020 et devrait à nouveau doubler, voire tripler d'ici à 2060 pour atteindre 1 milliard de tonnes. On retrouve ce même ordre de grandeur du côté des déchets parce que le recyclage mondial plafonne, lui, à moins de 10%. Au rythme actuel, cette production de plastique devrait occuper en 2050 près d'un quart du budget de carbone restant pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et ça, c'est sans compter les conséquences sur les puits de carbone qui sont eux aussi affectés.
C'est-à-dire ?
Eh bien, prenez le krill, par exemple. Cette petite crevette qui vit dans les eaux de l'Antarctique, elles sont des milliards et forment une puissante pompe à carbone. Eh bien, une étude britannique montre que les particules de nanoplastique dans l'océan empêchent le krill, ou plutôt ses excréments, d'absorber autant de CO2 qu'il le pourrait, à peu près moins 30%. Le plastique affecte à la fois l'océan et le climat, qui sont intrinsèquement liés.
Tout le monde est d'accord, Géraud, pour dire qu'il faut en finir avec cette pollution plastique aujourd'hui.
Oui, mais il y a de grosses divergences sur la manière d'y parvenir. 2 camps s'affrontent. D'un côté, une coalition de haute ambition, près de 70 pays, le Rwanda, le Pérou, l'Union européenne, appuyée par la quasi-totalité des pays africains. Pour ce groupe majoritaire, on ne peut pas mettre fin à la pollution plastique sans limiter en amont sa production. Cette position ne fait pas du tout les affaires, on s'en doute, des pays pétrochimiques, Arabie Saoudite, Iran et Russie en tête. Ces pays-là veulent un traité non contraignant et qui se limite au traitement des déchets plastiques. À Busan, les positions très fluctuantes des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, les 3 grandes puissances du plastique, seront donc déterminantes. Il faut s'attendre à un prolongement des négociations en 2025.
Jérôme Bosman pour Question d'environnement, merci beaucoup. Et ces négociations à Busan qu'on continue de suivre, bien sûr, sur RFI et RFI.fr. C'est là aussi que vous retrouvez nos bilans sur la COP29 qui s'est terminée ce week-end. Bientôt 7h30 en temps universel.
RFI, la sélection du mois.
Congo et Blackwell. No Russian, no Wahala. Only be you, I'm close. Only be you. Sékou Keïta.
Badoula, Sidoula.
RFI Musique.
Badoula, Tadoula.
ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Une conférence pour le climat dans un pays grand producteur de gaz et de pétrole, l'Azerbaïdjan. Le choix a fait grincer des dents, mais pendant toute la durée de la conférence, Bakou a soigné sa communication et présenté l'image de sa transition verte.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.